C'est moi qui commence.
C'est vous qui allez commencer.
Moi qui vais commencer. Bon. Alors donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Paul Jorion. Je suis de formation à l'origine anthropologue et sociologue. Je suis ensuite acquis une expérience de psychanalyste et je pratique effectivement. Je vais peut-être commencer. Je suis associé partiellement à Lille parce que je suis professeur associé à la CATO, la CATO de Lille depuis quelques années. J'ai expliqué tout à l'heure par quelle coïncidence ça s'est fait. Et je suis rattaché au département d'éthique. Mais puisqu'on a parlé tout à l'heure d'histoire, je pense qu'il est peut-être intéressant de remonter effectivement quelques années. Ça se passe en 1986. À la rue Richer, à Paris, que tous les touristes connaissent, bien entendu, puisque c'est là qu'il y a des Folies Bergères. Mais il y avait aussi une antenne de l'école Fruyère. Et il y avait aussi, pour moi, des bureaux de l'école pratique des hautes études. Et j'avais là un professeur d'algèbre, dont vous connaissez peut-être le nom, Georges Théodule Guilbeault. C'est la personne qui a introduit Lacan aux mathématiques. C'est lui qui a permis à Lacan de faire de la topologie. C'est lui aussi qui a produit pour Lévi-Strauss un certain nombre de modèles que Lévi-Strauss a utilisé. Lévi-Strauss, que j'ai eu aussi comme professeur, un homme absolument impressionnant sur le plan mathématique et qui n'avait aucune formation en mathématiques. La mathématique lui venait, comme à M. Jourdain, la prose, mais Georges Théodule Guilbeault lui permettait de mettre ça sur le papier. Et donc, il y a là aussi rue Richer, il y a une antenne de l'école Freudienne, et il y a en particulier les comités de rédaction de la revue Lannes, que certains connaissent encore, la revue Lannes à l'époque, L'Anne. Et nous sommes à une réunion du comité de rédaction, c'est en 86, il y a là entre autres Judith Miller, il y a Gérard Miller, il y a Slavoj Žižek, nous faisons tous partie du comité de rédaction, et nous parlons d'intelligence artificielle. Et on aimerait bien faire quelque chose, et il y a un numéro qu'on va faire, et je me propose, moi, de faire un article qui s'appelle « Ce que l'intelligence artificielle devra à Freud ». Voilà. J'avais une connaissance tout à fait superficielle de ce que c'était l'intelligence artificielle. Je connaissais un petit peu plus ce que Freud et Lacan pouvaient dire. Et j'ai écrit cet article. Et il s'est fait par une coïncidence extraordinaire. C'est qu'un an plus tard, je me trouve à un colloque et un spécialiste d'intelligence artificielle, un Britannique, me propose de faire partie de son équipe au British Telecom, et je deviens, je lui dis, j'y connais absolument rien, il dit, mais nous non plus, la discipline n'existe pas, on est en 87, on est tous comme vous, on débute, on vient tous avec des bagages différents, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez durant le colloque, et donc je vous invite à faire partie de ça. Et me voilà, avec mon, pour seul programme, l'article où j'avais dit que l'intelligence artificielle devrait beaucoup à Freud. Et je suis bien entendu tout à fait en dehors de la norme, puisque c'est la métapsychologie freudienne qui va me servir de template, de patron pour lancer un projet d'intelligence artificielle. Et donc je travaille là-dessus quelques années, et un collègue à moi va donner un nom au logiciel que je mets en place, il appellera ça Anela en anglais, Associative Network, réseau associatif, with emerging logical and learning abilities, avec propriétés émergentes de logique et d'apprentissage. Pourquoi dit-il ça, mon collègue, c'est un nom d'ailleurs qui est tout à fait approprié, parce que j'ai mis au centre de ce projet une dynamique d'affect, et que cette dynamique d'affect fait que quand la machine a des interactions avec l'être humain, la logique, effectivement, et l'apprentissage vont apparaître de manière émergente, c'est-à-dire spontanément, sans être codés à l'intérieur de cela. Et le projet va s'interrompre parce qu'en réalité, en fait, il n'était pas financé réellement par les British Telecom. On nous l'apprend en 90. Nous avons quand même travaillé un peu. On nous dit, il faut qu'on vous avoue, c'était pas du tout nous qui financions ça, c'était l'armée. Mais nous sommes en 90, l'année dernière le mur de Berlin a tombé, les budgets militaires, heureusement pour tout le monde, sont divisés par deux, et il n'y a plus d'argent pour le projet. Donc mon expérience de chercheur en intelligence artificielle s'interrompt là. À cette époque-là, j'ai refait un exposé à la... à l'invitation des jeunes lacaniens à Paris. J'ai expliqué ce que j'avais fait. Ça a produit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Principes des systèmes intelligents ». Et là, j'ai rencontré un jeune homme en particulier qui m'a dit « Mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas utiliser Freud, on ne peut pas utiliser Lacan pour faire de l'intelligence artificielle. » Je dis « Je viens de le faire pendant quelques années. »« Non, 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 ce n'est pas possible. » Je dis « Vous me dites donc que la métapsychologie, ce n'est pas un matérialisme. »« Oui, je vous l'affirme, etc. » Ce n'est pas mon point de vue. Il y a le réel. Il y a l'imaginaire, il y a le symbolique, je crois à toutes ces choses. J'ai une formation d'anthropologue, je ne peux pas ne pas y croire. Mais nous sommes dans un monde qui est un monde matériel et nous pouvons expliquer ce qui s'y passe à mon sens. Ne rapportez pas ce que je viens de dire à la Cato parce que je voudrais conserver mon contrat pendant encore un peu de temps. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments transcendants. Je crois qu'il est possible, effectivement, avec cette expérience de la psychanalyse. Il se fait qu'en 87, je commence aussi une analyse avec Philippe Julien, que vous connaissez sans doute de nom, et certains d'entre vous, spécialistes donc du rapport entre la psychanalyse et la religion en particulier, et aussi d'un très bon livre dont j'oublie le nom, où il analyse la pensée de Lacan lui-même sur un mode historique, le passage d'un modèle à un autre. Et je pense qu'on peut parler à la fois en tenant le même langage, parler à la fois de ce que font les ingénieurs et de ce qui est le fonctionnement de l'être humain. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments extérieurs, même s'il y a des choses, bien entendu, comme la chaîne signifiante, comme des choses qui relèvent de ce que nous appelons à juste titre le symbolique, et que nous apparaissons, donc je vais en dire un petit peu un mot, à l'intérieur de cet univers. Mais je pense aussi qu'il est possible, pour chacune de ces hypothèses, de la transcrire de telle ou telle manière, de façon à ce qu'on pourrait effectivement dans la machine produire des effets du même type. Alors je terminerai sur une conclusion moins affirmative, et vous allez voir pourquoi. Quand on m'a demandé un titre, j'ai fait un titre un peu à la Philippe K. Dick, comment est-ce que le robot appellerait son inconscient, et j'ai utilisé ce terme de capteur. En robotique, on distingue deux types de capteurs, ce qu'on appelle les propriocepteurs et les extérocepteurs. Que fait un capteur? Il mesure quelque chose à l'intérieur du monde et le transforme en des impulsions électriques qui seront interprétables par ce qu'on appelle d'habitude un système d'exploitation, une petite machine qui va traduire ces courants électriques en des nombres, et ces nombres seront ce qui va agir la machine à l'intérieur, une suite de 1 et de 0 qui correspondent simplement à des modulations différentes du électrique. Vous le savez que dans l'être humain, dans les êtres vivants, ce ne sont pas directement des courants électriques qui fonctionnent, ce sont des réactions chimiques, mais qui se propagent à grande vitesse. Selon les endroits du corps, c'est entre 6 mètres à la seconde et 50 mètres à la seconde. C'est beaucoup plus lent, bien entendu. Une réaction chimique, c'est beaucoup plus lent. Même si c'est extrêmement rapide, je dirais quand même, c'est plus lent qu'une impulsion électrique qui, à la limite, pourrait aller aussi vite, ou en tout cas si c'était un faisceau lumineux, pour aller à 300 000 km seconde. Mais il y a une différence, bien entendu, nous allons beaucoup plus lentement qu'un ordinateur. C'est de l'ordre de plusieurs millions, entre 2 millions et 5 millions de fois moins vite, mais nous disposons d'un système nerveux extrêmement complexe, vous le savez, avec 100 milliards de neurones qui sont interconnectés, ce qui donne une puissance extraordinaire, bien entendu, de traitement à la manière dont nous faisons les choses. Différence entre un propriocepteur et un extérocepteur. Un extérocepteur, c'est simplement, par exemple, un thermomètre qui nous dit la température dans la salle. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons regarder si un objet est loin ou s'il est proche. Nous pouvons prendre un élément et puis juger à peu près quel poids ça a, des choses de cet ordre-là. Le propriocepteur, lui, mesure, c'est un capteur qui est lié à notre emplacement même à l'intérieur du système. Quand nous avons mal, voilà, ça c'est plutôt de l'ordre du propriocepteur, c'est pas le monde extérieur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à l'intérieur de l'espace de la peau, comme on dirait tout à l'heure. La machine a ça aussi. Elle peut aussi, mesurer, elle peut aussi utiliser voilà, des signaux qui nous viennent sur la manière dont, par exemple, voilà, une automobile autonome, bien sûr, doit mesurer les objets à l'intérieur du monde, mais doit aussi savoir où elle est par rapport à ça, à quelle vitesse elle agit, et ainsi de suite. Donc, sur ce principe que nous mesurons des choses du monde extérieur et du monde intérieur. On parlait tout à l'heure voilà, des prothèses qui permettent à une diabétique de savoir où il en est. Ce sont des choses de l'ordre du proprioceptor. Nous avons des capteurs, nos organes de sens sont bien entendu des capteurs qui nous permettent de voir comment est le monde vis-à-vis de l'extérieur et par rapport à nous-mêmes, si un objet est chaud simplement ou s'il est trop chaud par rapport justement à la possibilité pour notre peau de pouvoir maintenir le contact des choses de cet ordre-là. Donc, là, une ressemblance entre la machine de type robot, je vais parler de robot sans description précise, entre un robot et nous, il y a un certain nombre d'éléments qui sont bien entendu communs, une connaissance nécessaire du monde extérieur et une connaissance du monde intérieur à l'objet lui-même que nous sommes ou que le robot constitue. Une différence, elle a été mentionnée tout à l'heure, je l'ai entendu, elle a peut-être été mentionnée ce matin aussi, c'est la conscience. Voilà. La machine n'a pas... Nous avons une difficulté. Nous savons que nous avons une conscience, parce que nous pouvons échanger à ce propos-là. Nous savons ce que c'est qu'être conscient. Nous avons un problème dès qu'il s'agit des animaux avancés. Est-ce qu'ils ont quelque chose de l'ordre de la conscience ou non? Dans la mesure où ils ne parlent pas, c'est essentiellement par le fait que nous parlions de notre conscience que nous pouvons communiquer, convaincre les autres que nous avons une conscience, mais nous en sommes convaincus par expérience personnelle que les êtres humains ont conscience. Est-ce qu'un chien a conscience, un chat, un cerf dans la forêt les images varient, les interprétations varient. Vous le savez que la tendance post-humaniste en particulier est de considérer qu'il n'y a pas de raison a priori, de considérer que les animaux n'ont pas une conscience comme nous, même s'ils ne peuvent pas la manifester au sens de nous-mêmes par les mots. Quand on nous dit que le robot n'a pas de conscience, la phrase est tout de suite problématique dans la mesure où nous n'avons pas de modèle très convaincant de ce que c'est la conscience. Nous ne connaissons pas le mécanisme, malgré tous les progrès que nous avons pu faire. L'expérience, la définition de la conscience vient essentiellement de cette phrase « je suis conscient et je sais de quoi ça parle » et nous pouvons utiliser ça de manière plus ou moins polémique ou rhétorique. « Oui, mais je n'étais pas conscient de ceci ou cela. » C'est à partir de là que nous avons une représentation de la conscience, mais pas véritablement un modèle. J'ai proposé, c'était en 99, un modèle de la conscience qui était lié essentiellement à la mémoire. Selon moi, la conscience est un artefact de la mémoire. C'est le fonctionnement de notre mémoire qui fait que nous avons la conscience, mais je voulais bien entendu tenir compte de l'apport de la psychanalyse freudienne et lacanienne. La conscience n'a pas le fonctionnement que le modèle classique de la psychologie, et ça continue pour les sciences cognitives, c'est-à-dire, je dirais, le modèle qu'on peut représenter brièvement comme disant la conscience est l'organe qui utilise la volonté, et que fait la volonté à partir d'intentions que nous avons, la volonté les met en acte à l'intérieur du monde, nous réalisons nos intentions, et c'est la conscience qui dirige cela. À partir du moment où la conception de l'inconscient apparaît, la question se pose, on peut parler d'arc réflexe, il y a des choses, oui, tout le monde est d'accord, qui se font automatiquement, mais entre l'arc réflexe, l'inconscient et la conscience, nous ne pouvons pas dire exactement de quoi il s'agit. Ce que j'ai proposé, le modèle que j'ai proposé de la conscience, il est lié justement à cette notion de capteur, c'est sans doute pour ça que j'ai mis ça dans le titre. La vitesse à laquelle les organes de sens envoient des messages à la zone, probablement essentiellement dans le cerveau, qui traite l'information. La vitesse est la même dans le corps, mais la distance est différente. Nos yeux, l'information qui vient du nerf optique va sans doute de manière très rapide à l'endroit qui traite l'information à l'intérieur du cerveau, et nous le savons maintenant par l'imagerie. L'information qui vient du bout de mon doigt, elle ne va qu'à du 6 mètres à la seconde, et donc il doit y avoir une instance qui synchronise. Il synchronise l'information qui vient d'organes différents, d'organes de sens différents, mais pour qu'il soit interprété comme étant la même chose. Si je touche un serpent et que je le vois tout de suite, mais que l'information ne vient qu'un peu plus tard, je ne vais peut-être pas intégrer le geste que je dois faire au bon moment. Il faut absolument que tout ça soit intégré à la bonne vitesse. C'était une chose qui paraissait évidemment, bien sûr, dans une conception où il y a de l'inconscient, tout ça va de soi. Les psychologues, comme vous savez, doivent toujours réinventer 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, bientôt 150 ans plus tard, ce qu'on trouve déjà chez Freud. Et quand M. Benjamin Libet, psychologue américain dans les années 60, découvre qu'entre le moment où nous avons présent à la conscience, la volonté de faire quelque chose, et le moment où nous le faisons, il y a un décalage d'une demi-seconde. Et pas dans le sens qu'on pourrait imaginer que le geste viendrait une demi-seconde après la volonté. Non, le geste est posé une demi-seconde avant l'impression de volonté de poser le geste. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous vient à la conscience, c'est un entérinement de gestes que le corps a déjà entamé. Monsieur Benjamin Libet, il faut dire ça, je dirais, à sa charge ou à sa décharge, il n'a jamais cru à ce qu'il avait trouvé lui-même. Ça n'est jamais convaincu. Il a toujours été convaincu qu'il y avait soit une erreur, puisque ça faisait supposer que la volonté n'a pas du tout ce rôle spontanément imaginé par la psychologie de type que classique. Il a même imaginé qu'il y avait peut-être un mécanisme physique inconnu qui faisait remonter dans le temps la volonté vers l'acte posé. Non, il y a donc deux types de machinerie. Il y a celle que voyons avec la conscience, et puis il y a tout le fonctionnement du reste qui est essentiellement de type spontané. Vous avez peut-être eu, la plupart des gens ont eu des expériences du même type que la mienne, un jour de me retrouver me constatant courir sur une plage et en me disant « mais pourquoi est-ce que tu cours ?» Et toute l'information des cris venant de la mer de quelqu'un qui se noie me vient à la conscience, probablement la fameuse demi-seconde de Monsieur Libet, et je me dis « ah, c'est ça que tu es en train de faire je dirais une confirmation de ce retard. » Alors, tout ça, c'est des choses connues. Au moment où on se met à faire de l'intelligence artificielle, et il faut intégrer tout cela à la représentation de la manière dont les choses fonctionnent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Eh bien, il doit y avoir un mécanisme qui est une sorte de mise à plat de l'information qui vient des différents sens et qui organise cette synchronisation.
Oui.
D'accord. Et c'est-à-dire qu'il doit y avoir l'équivalent d'un regard ou d'une fenêtre dans laquelle tout cela est mis à plat et où le retard de ce qui me vient du doigt doit pouvoir être enregistré au même moment que ce qu'ont vu mes yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a qu'une possibilité. Je ne crois pas à l'hypothèse de M. Libet. Il faut que l'impression des yeux, de ce qui vient des yeux, soit retardée du temps qu'il faut pour que ce qu'il y a au bout de mon doigt me parvienne à la conscience. Donc, il faut que ces choses soient mises à plat. Mais non seulement cela, il faut aussi, évidemment, qu'il y ait, pas simplement une photographie, un cliché, cette mémoire de ce qui est en train de se passer va s'inscrire, d'abord dans la mémoire immédiate, ensuite va aller s'inscrire dans le cerveau, mais il faut aussi que l'information pertinente de ce qui est en contexte puisse être intégré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait enregistrement de ce qui est en train de se passer. Il faut qu'il y ait un regard, synchronisation. Il faut que l'information soit envoyée vers le cerveau pour aller s'enregistrer par la suite. Mais il faut que l'information du même type, soit en mouvement inverse, passe à la rencontre de ce qui descend, doit rencontrer ce qui monte. J'en ai parlé à différents physiciens qui sont absolument pas convaincus, mais ça ne fait rien. On parle d'image holographique quand on parle de la conscience. C'est venu spontanément aux auteurs de science-fiction. Mais à mon sens, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il doit y avoir dans la remontée et la descente de l'information qui vient de la mémoire, il doit y avoir quelque chose qui se rencontre. Le résultat, à l'arrivée, vous le connaissez, et l'observation a été faite depuis très, très, très longtemps. Citation, voilà, épître aux Romains, vous connaissez ça. Car je ne reconnais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que j'exècre. Voilà, les deux volontés. Il y a d'une part ce que la conscience décide de faire, et ce que nous constatons de faire. Il y a un monsieur, c'était au Sénat, où nous étions dans un débat, et il me dit après l'exposé, enfin notre discussion, est-ce que vous êtes comme moi, que vous ne reconnaissez jamais ce que vous avez dit, que vous aviez toujours envie de dire le contraire. Heureusement, je n'avais pas la même sensation que lui, mais ça doit être très gênant, effectivement, quand les deux volontés sont complètement déconnectées, et que le monsieur ne fait que se constater en train de dire le contraire de ce qu'il voudrait finalement dire. Pardon ?
Ce qui arrive, c'est pas.
Oui, bien entendu. Oui, pour parler de ça, je dirais de manière plus sérieuse, effectivement, la déconnexion est plus ou moins grande, selon les personnes, entre ce que les deux volontés veulent faire. Aristote aussi en a parlé d'une certaine manière, en disant qu'il y avait, deux types de personnes, c'est à la fin de l'éthique à Nicomaque. Il y a les personnes à qui on peut demander d'agir selon la vertu, c'est-à-dire que leur comportement finira, et Durkheim appelait ça le social intériorisé, que nous nous comportions d'une certaine manière qui nous satisfait nous-mêmes, que nous nous reconnaissons dans nos gestes. Et là, il dit, il y a des gens pour les qui on ne pourra jamais faire appel à la vertu, et c'est pour ceux-là qu'il faudra qu'il y ait des tribunaux, qu'il y ait de la police, qu'il y ait des prisons. Ce sont les amis du plaisir, parce que les amis du plaisir, justement, leur amour du plaisir va faire qu'à tout moment, leur volonté, leur conscience ne reconnaîtra pas exactement ce qui est en train de se faire, ce qui a des implications, bien entendu, aussi pour les addictions et des choses de cet ordre-là. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est cela qu'on fait parce que la machinerie elle-même a des contraintes, des contraintes qui sont contradictoires. Comment peut-on présenter quand même tout cela dans un modèle de type matérialiste? Et là, je vérifiais, c'était quelque chose que je croyais savoir, mais j'ai voulu vérifier. Quel est, quand on parle de behaviorisme, quand on parle de Skinner, donc l'aventure du behaviorisme, quel est l'auteur le plus cité par Skinner? C'est Sigmund Freud. Et j'avais entendu ça quelque part, mais j'en ai la vérification dans le. On trouve ça sur Wikipédia, effectivement. Entre un modèle de type purement pavlovien, comme le modèle skinnerien, si on intègre l'imaginaire et le symbolique, je crois qu'il y a moyen, effectivement, d'avoir des modèles de type purement pavlovien. Et c'est ça que j'avais implémenté, comme on dit, dans la machine. C'est-à-dire qu'à partir du fait que si vous mettez une dynamique d'affect au centre, il n'y a aucune difficulté à connecter ça à la chaîne symbolique. Ce sont les mots que vous inscrivez dans une base de données dans la machine, et que le sujet apparaisse effectivement comme quelque chose d'induit par la chaîne signifiante, mais avec le filtre de sa dynamique d'affect. Comment est-ce que ça marche? Ça marche simplement parce que les physiciens appellent un gradient, et c'est comme ça que cette machine produisait de la logique et manifestait une volonté d'apprentissage, une descente de gradient. La dynamique d'affect fait qu'il y a des choses qui sont pertinentes, ce sont les choses qui ont une haute valeur d'affect. Et quand nous commençons la conversation, nous commençons par vouloir dire cela. Et si quelqu'un qui n'est pas malade parle, la seconde phrase ne répétera pas exactement la première, parce qu'il y aurait eu une baisse dans le gradient, une descente à l'intérieur du gradient. On voudra descendre, on voudra aller, et moi je vais implémenter simplement avec un compteur associé à cette dynamique d'affect, et en tenant compte du fait que les mots ne sont pas les mots, la pomme dans l'expression pomme d'Adam n'aura pas la même valeur d'affect que les pommes et les poires dans un tableau de Cézanne. Chaque instance d'un objet doit se trouver reliée d'une certaine manière à une valeur d'affect particulière, c'est-à-dire en contexte. Et vous savez peut-être, quand le mot complexe est inventé, qui est utilisé bien sûr par Freud pour le complexe d'Oedipe, c'est un terme qui reprend à Jung. Il reprend à Jung dans les travaux que Jung avait faits sur l'induction des... Voilà, quand Jung explique dans ses premiers travaux, quand il dit... Si je dis à quelqu'un piano et que quelqu'un répond musique, eh bien voilà, il y a là un complexe dans lequel le piano et musique sont associés pour la plupart des gens. Mais si je dis piano et que quelqu'un me répond, je crois que c'est l'exemple est correct, père assassin, là il y a quelque chose qui est, il y a là un autre complexe. Et c'est bien sûr cette notion-là de complexe qui va donner qui va produire une réutilisation par Freud du complexe dans une notion comme complexe d'Œdipe. Qu'est-ce que c'est que cette descente de gradient? C'est une observation qui avait été faite par Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dit « Ce que nous pensons, nous l'apprenons au même moment que les autres. » C'est une réflexion qu'il fait. Et qu'il explicite ça en disant « Nous, ce que nous pensons, nous l'apprenons comme les autres en nous écoutant parler. » Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a là un processus qui est lui-même un processus de type inconscient, de type pavlovien à l'intérieur de la machine. Il n'y a pas, contrairement à ce que certains linguistes imaginent, il n'y a pas une pensée mentale qui précède et qui serait comme la répétition de ce qui va être dit. Non, il y a la conscience est là qui nous entend dire quelque chose et nous le reconnaissons. Et bien entendu, le mouvement est un mouvement induit, c'est-à-dire que nous réagissons nous-mêmes à ce que nous venons de dire. Tout à coup, la honte de nous avoir, comme le monsieur, de nous avoir entendu dire quelque chose qui n'était pas ce que nous voulions dire, provoque cette réaction chez nous. C'est-à-dire que la dynamique d'affect, elle est là en train de, je dirais, en prise. Elle est en train d'écouter ce qui est en train de se passer, de la même manière que c'est elle qui motive ce qui sera dit. Donc, aucune difficulté à intégrer les notions d'imaginaire, de chaîne signifiante. L'imaginaire, évidemment, implique qu'on parle d'autre chose que des mots, en particulier d'images qui leur sont associées. Mais le symbolique, non, le symbolique, il est là, effectivement, et nous sommes les produits de la chaîne signifiante au fur et à mesure qu'elle est produite. Quand Lacan parle des points de capiton, bien entendu, ce sont les points de connexion entre le réel, effectivement, et tout ce qui est produit du côté du symbolique et de l'imaginaire. C'est l'endroit, je dirais, où les propriocepteurs et où les extérocepteurs doivent pouvoir communiquer pour que nous ne soyons pas simplement dans un délire, c'est-à-dire avec une déconnexion par rapport au réel qui est quand même bien là autour de nous. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit bon, il est possible de mimer dans la machine, et c'est bon, ça, je dirais, c'est peut-être ça l'apport de ce logiciel Anella que j'avais produit à une certaine époque. Les questions commencent à se poser, je dirais, est-ce qu'il sera possible ou est-ce qu'il serait souhaitable que nous reproduisions l'ensemble de ce qui de ce que nous pouvons comprendre et de vouloir le faire. La première chose qui avait été constatée dès le départ, on élimine les bugs dans la machine, on élimine les bugs, c'est-à-dire que les effets de ratage dont parle Lacan, on essaie de les éliminer, on n'essaie pas que la machine soit attendrissante, je dirais comme un mot d'enfant qui a confondu deux notions, des choses de cet ordre-là, on ne demande pas à la machine qu'elle agisse de cette manière-là. On a joué sur ce thème, bien entendu, dans les romans et dans la science-fiction, vous vous souvenez sans doute de la fin du film 2001, quand la machine régresse, dont un humain déconnecte la mémoire et qui finit par chanter une petite chanson enfantine parce que c'est la seule chose qui lui reste. Qu'est-ce que le symbolique produit et que la machine, je dirais, ne trouvera pas spontanément? C'est des choses de tout ce qui relève de ce que nous appelons la responsabilité. Quand nous avons des notions, je dirais, aussi imprécises que l'intuition, comme la conscience, quand on nous dit, pour le jeu de Go, c'est un jeu que les machines ne pourront pas gagner, ou auquel les machines ne pourront pas gagner aussi facilement qu'elles nous ont fait aux échecs, parce que le nombre de combinaisons fait que même un ordinateur ne peut pas calculer l'ensemble des positions possibles, il faut de l'intuition. et que l'intuition apparaît dans la machine, parce que, vous le savez, c'est en 2015, l'ordinateur commence à battre les plus grands champions de Go, et bien sûr, les programmeurs disent, mais on leur dit, où est-ce que vous avez mis l'intuition, puisqu'on a considéré que c'était indispensable, mais on ne l'a mis nulle part, la machine est plus intelligente que nous. Même chose quand les machines maintenant gagnent au poker, est-ce qu'il y a des lignes qui on peut dire, voilà, ça c'est les lignes où la machine a appris à faire à bluffer. Non, ça lui est venu comme ça. On peut se poser la question, est-ce que la conscience va venir de cette manière-là aussi. Mais pour les choses de l'ordre de ce que nous appelons la responsabilité, là, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce qu'il faut non seulement qu'il y ait du symbolique, mais il faut que ce symbolique fonctionne dans la machine que nous sommes, avec des instances du type du surmoi, avec la mémoire, et toute la mémoire de cette dynamique d'affect et tout ce que ça inscrit à l'intérieur de la machine, comme ce qu'on peut appeler les noyaux de croyance. Ma machine avait produit la paranoïa. Je regardais ce qui se passait. Tout à coup, elle m'a fait un raisonnement, mon logiciel, m'a fait un raisonnement paranoïaque. Et je regarde, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne collait plus. Et je regarde à ce moment-là le réseau mnésique, le réseau de mémoire que la machine s'était constitué, et le réseau était déconnecté. Il y avait deux graphes, et ces deux graphes ne communiquaient plus. Et je me dis, la forclusion. Ben voilà. C'est ça la forclusion. Il y a un endroit, le nom de la mer, où la communication ne se fait plus, parce que le tabou là, est à ce point inscrit que deux parties du graphe sont déconnectées. Et que fait la machine? Elle va essayer de trouver une explication localement, à l'intérieur de la partie qui est déconnectée. La bonne explication est dans l'autre partie, mais il n'y a plus de pont, il y a un pont qui ment. Et du coup, elle va essayer de trouver une explication dans sa proximité, et c'est ça que je voyais apparaître, bien entendu. Par la suite, à partir de là, je me suis dit, bon, on peut introduire la névrose aussi. On va donner on peut donner à des nœuds une valeur d'affect telle qu'il y aura un commun tabou qui est placé à cet endroit-là. Et comme dit Freud, quand la mémoire ne peut plus passer, elle est comme les chemins de montagne au moment de la crue du printemps. On peut aller en 20 minutes d'un village à l'autre, et là, non, il faut 4 heures parce qu'il faut passer par un col, parce que la vallée est inondée. On peut faire la même chose, bien entendu, sur le réseau d'une machine, lui donner un tabou. On peut induire la névrose facilement en interdisant certains endroits, et où elle devra faire un parcours compliqué pour se retrouver à l'endroit où elle devrait aller. Alors, cette notion de responsabilité, c'est par ça que je vais terminer, nous avons un mot, le mot responsabilité. Les anglo-saxons sont plus précis. Il y a trois notions qui correspondent, qu'on peut retrouver chez nous, mais il est bon de passer par les termes des anglo-saxons. Il y a imputabilité, imputability, accountability et answerability. Et ce sont des termes légèrement différents. L'imputabilité, c'est la cause. C'est la chose qui, si cette chose-là ne s'était pas passée, l'autre n'aurait pas eu lieu. C'est ce qu'on appelons le rapport causal. Et là, il est intéressant de faire une petite remarque de type historique. Nous avons tendance à nous dire, oui, bon, tout le monde a toujours raisonné en termes de cause, et la responsabilité, eh bien, c'est aller voir où est la cause d'une chose qui s'est passée. Eh bien, historiquement, non, pas de notre culture. D'abord, la notion de cause est tout à fait étrangère à la culture chinoise classique. Elle n'intervient pas du tout. Vous le savez, c'est une pensée en termes de corrélation uniquement. Il y a des choses qui se passent en même temps ou des choses qui ne se passent pas en même temps. Il y a des choses qui se suivent. L'alouette et le rat des champs. Quand il y a des rats des champs, il n'y a pas des alouettes. Et quand il y a des alouettes, il n'y a pas de rat des champs. C'est une alternance simplement des saisons. Il n'y a pas de raisonnement de type causal. Bien entendu, quand la Chine se familiarise avec notre pensée à nous, la causalité intervient. Mais avant, non. Et que se passe-t-il? Qu'y avait-il chez nous? C'est la notion de cause qui dérive de la notion de responsabilité. Quel est le Dieu qui s'occupe de ce genre de choses qu'on a vu se produire et dont on sait que ce n'est pas un être humain? Si ce n'est pas un être humain, ça doit être un Dieu qui s'en est occupé. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait allusion tout à l'heure, d'habiter dans un pays qui s'appelle le Bénin, qui est le pays où la religion locale, c'est le vaudou. Et je m'étais intéressé au panthéon vaudou, le panthéon vaudou, les dieux. Eh bien, il s'est fait, et ça m'a frappé, vous avez peut-être entendu parler de ce que le mathématicien René Thom avait appelé la théorie des catastrophes. La théorie des catastrophes, c'est un classement des différents types d'événements, de disruption, on dirait maintenant, de rupture qui peuvent avoir lieu dans le monde. Par exemple, une coupure, ou une éruption, ou un pli à l'intérieur d'un objet. Il avait produit une théorie des catastrophes avec sept grands types de changements, de transformations radicales à l'intérieur du monde. Et je découvre dans ce panthéon du Bénin, du Dahomey, l'ancien Dahomey, dans le panthéon vaudou, sept dieux qui correspondent aux sept catastrophes élémentaires. C'est-à-dire que spontanément, à l'intérieur de cette religion, on avait trouvé, il faut assigner à tel dieu, tel événement, qui relève de ce que nous appelons nous maintenant la force majeure, mais que de manière intéressante, les anglo-saxons appellent encore « act of God ». Cette notion de force majeure, elle vient du droit napoléonien, et les Anglais ont toujours cette expression « act of God », c'est-à-dire quelque chose où il y a un responsable, mais ce responsable n'est manifestement pas humain, nous l'appelons « act of God ». Et en droit, bien entendu, la question de la responsabilité, à ce moment-là, c'est la communauté, bien entendu, qui va prendre à sa charge ce qui est un « act of God », un tremblement de terre, une inondation, et des choses de cet ordre-là. Mais notre pensée ancienne, elle attribuait à un agent de type humain, qu'on appelle un dieu, de faire ces choses. Et c'est le problème de la xénophobie et du populisme maintenant, c'est qu'un certain nombre de personnes continuent d'attribuer nécessairement à des ethnies particulières, des individus particuliers, ce qu'on avait eu, je dirais, le bon goût d'attribuer à des dieux qui sont en dehors de notre juridiction. Imputabilité, donc la causalité. Accountability, la possibilité de rendre compte de ce qu'on a fait. Alors là, on peut imaginer, c'était un petit peu ce qu'il y avait déjà dans mon logiciel, que la machine puisse effectivement rendre compte de ce qu'elle fait. Si on lui dit « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?»« Ben, je l'ai fait pour telle et telle raison. » Accounting, bien entendu en anglais, c'est la comptabilité. Mais nous disons aussi rendre compte de quelque chose, de produire comme un calcul qui fait que telle chose s'est bien passée de telle manière. Et là, les notions de référence, bien entendu, c'est la vérité et la fausseté. C'est une réflexion qui a été faite l'autre jour devant une commission sur l'impeachment aux États-Unis. On nous dit qu'il n'y a plus de vérité, qu'il n'y a plus que de la postérité, etc. Mais dans notre commission, non, ça compte toujours. Il y a toujours une notion de vérité et de fausseté. Accountability, possibilité de produire un récit. Et là, effectivement, il n'y aura probablement pas de difficulté à ce que la machine intelligente, on a entendu parler tout à l'heure, c'était un petit peu un message mis en boîte, mais les systèmes intelligents maintenant peuvent dire pourquoi, comment elles sont arrivées à un certain type de raisonnement, même si comme nous, non, elles n'ont pas évidemment accès à l'ensemble des décisions qui étaient prises au niveau d'un réseau neuronal. Et dernière notion, answerability. C'est answer, bien sûr, c'est répondre. Et nous avons notre mot responsabilité est évidemment la même racine, la possibilité de parler de ce qui s'est passé en termes de bien et de mal. Pas en termes de vérité et de fausseté, mais de bien en bien et mal, et surtout de pouvoir moduler l'adhésion de la personne à l'acte qui a été posé. Et c'est cela, bien entendu, cela qui joue dans le tribunal essentiellement. Vous vous souvenez peut-être de ce livre de Musil qui s'appelle « Un homme sans qualité », où il y a un personnage qui revient à tout moment dans les deux volumes, c'est Mosbrugger. Mosbrugger qui est un assassin qui a tué une prostituée qui le poursuivait dans la rue. Et en fait, bon, là, Musil fait allusion en réalité à un fait divers à son époque en Autriche-Hongrie avant la guerre. Un personnage qui considère, il y a un très bel exemple là, le président dit à Mosbrugger, c'est bien vous qui avez fait ça, etc. Tout le monde sait que c'est vous, on vous a vu le faire. Et Musil dit, lui, il concevait cela, tout ce qui était arrivé, simplement de la même manière qu'un vol d'oiseau qui serait venu à sa rencontre. Dans la traduction de Jacoté en français, malheureusement, il y a une erreur. Il parle d'oiseau en migration, ça n'a aucun rapport, c'est tout simplement une mauvaise traduction de l'allemand. Alors, je termine là-dessus. Ah oui, donc encore un petit mot, puisque je parle de Musil. Musil attire l'attention de quelque chose sur, son, l'attention sur quelque chose qui lui paraît tout à fait typique des années qu'il décrit. Donc là, les années 1900, il écrit en 1920, mais il parle des années 1910, et il nous parle de d'une dérive précisément de cette answerability, cette capacité d'un individu à s'identifier, à l'acte qui a été posé. Et c'est la question, bien sûr, que nous appelons de la responsabilité. Si la personne est psychotique, la responsabilité est absente ou diminuée. Et là, dans ce... Vous savez, Musil parle de la cacanie comme étant l'empire austro-hongrois. La capacité à rendre compte se confond désormais en cacanie avec le talent à raconter sa vie comme un roman. Au lieu du compte-rendu véridique d'autrefois, nous ne proposons plus aujourd'hui à autrui que les fragments d'une autobiographie romancée. Et je crois que c'est un peu le drame aussi de notre équipe, de notre époque et de notre équipe, et qui renvoie aussi justement à cette déresponsabilisation, à ce sens-là, par rapport aux objets, par rapport à ces soldats dont on dit maintenant qu'ils jouent, ils sont dans la guerre, comme ils étaient dans un jeu numérique avant d'avoir fait la guerre, une absence de distinction faite entre une vérité de type numérique, virtuel, comme on dit, et ce qui se passe véritablement. Alors, le robot, oui, donc je crois qu'on va pouvoir faire bien davantage que ce qu'on nous dit maintenant, que c'est un peu à partir d'une image un peu, comment dire, enflée de notre propre importance, que nous essayons d'attirer l'attention sur des aspects qui ne seraient pas de type pavlovien dans notre propre fonctionnement. Tout ça, je crois que ça va pouvoir être fait. Mais maintenant, et là je cite simplement un paragraphe d'un article que j'avais fait à ce propos-là dans la revue Quinzaine. Pour ce qui est maintenant de la capacité du robot à adhérer à la personne qu'il affirme être, pour ce qui est de son degré de détermination dans le respect de sa parole donnée quand il aura promis, juré et affirmera alors mettre en jeu son honneur, pour ce qui est de son talent à nous convaincre de la sincérité de son remords, garant de sa volonté de s'amender en vue d'assurer son salut, là, nous demanderons tous certainement à voir. Merci. Oui.
C'est à moi donc. Ben, je suis fasciné. Je suis fasciné par ce que vous nous apportez. Et en même temps, je me demandais comment pour un matérialiste, puisque c'est comme ça que vous vous affichez, et comment un matérialiste et pour quelle raison a pu trouver un enseignement à la cato. Et alors j'essayais de me trouver une raison.
Oui, vous ne trouverez pas la vraie. Oui.
Alors, dans l'histoire des idées, les jésuites ont excellé en logique.
Oui.
Et quand j'ai commencé à faire des études comme ça de logique, je me demandais comment se fait-il que des jésuites qui croient en Dieu, en l'opposition entre l'âme et le corps, entre l'immanence et la transcendance, peuvent exceller dans le travail scientifique et logique. Et alors je me disais, comment ils vont accepter votre matérialisme? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelque chose qui puisse, comme ça, transcender votre matérialisme? Est-ce que vous avez une réponse à ça?
Oui, mais c'est le symbolique. C'est la conscience du symbolique. Vous savez, Hegel vit indifféremment le Saint-Esprit, la raison dans l'histoire, tout ça c'est la même chose.
Oui, mais pour les jésuites, ça c'est pour vous, vous me donnez une explication.
Mais comment Philippe Julien, mon analyste, il était jésuite aussi, et ça ne l'a pas empêché de me transmettre un certain nombre de choses.
Oui, pour Julien, comme pour les autres jésuites à l'ex-école freudienne, vous n'êtes pas sans savoir que le fait que Lacan ait introduit le concept du grand autre, il y a eu 12 adhésions de jésuites à l'école freudienne. Donc, c'est lié à ça. Mais dès qu'il a commencé, Lacan, à barrer le grand autre, il y a eu quelques sorties. Donc, mais ça, ils doivent trouver, eux, les jésuites, leur compte dans le fait d'inviter des scientifiques, après tout, même matérialistes. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Maintenant, laissons cette question de côté. J'aimerais bien, en vous écoutant chaque fois, j'essaie de me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? J'ai un petit tic comme ça qui est lié à mon enseignement dans tant d'épistémologues. C'est-à-dire de savoir comment un discours, on peut le ramener à un fondement, à un objet bien précis. Et à chaque fois, je me disais, mais où est-ce qu'il veut en venir? Alors, vous avez avancé l'idée de l'affect, la dynamique de l'affect. C'est pas nouveau. Les philosophes qui mettent l'affect en avance, même avec une sorte de dynamisme, ont été critiqués par Hegel, puisque vous faites référence à Hegel. Et me venait l'idée, l'affect m'affecte. Et donc, avec l'affect m'affecte, je tourne en rond. La deuxième chose qui est plus intéressante, que je trouve dans ce que vous apportez, vous voulez modéliser un peu tout ce qui relève de la psychanalyse, de l'inconscient, n'est-ce pas? Mais vous savez que Lacan, en fin de compte, il disait qu'il n'y a pas de modèle concernant le réel en psychanalyse. Nous pouvons avoir des modèles dans les sciences physiques, dans les sciences biologiques, construire à chaque fois des modèles qui se trouvent dépassés à chaque fois. Mais il était contre l'idée de modéliser, de trouver un modèle, de proposer un modèle quant au réel en psychanalyse. Pour une raison simple, c'est que le modèle, trouver un modèle en psychanalyse, c'est presque en contradiction avec la pratique elle-même. Ça annule par là même la pratique. Dire qu'il n'y a que des relations, parce que vous dites, il n'y a pas de cause. Peut-être, mais si on enlève l'idée de cause, n'est-ce pas, nous employons des notions en existence, en philosophie, en science, des idées auxquelles ne correspond pas d'objet particulier. N'est-ce pas? Entre autres, l'idée de cause, peut-être. Évidemment, la cause n'est pas nécessairement, ne correspond pas nécessairement à un objet causal en tant que tel, à une substance causale en tant que telle. Mais il se trouve qu'on peut en avoir besoin, on peut s'en débarrasser. Alors, on n'a qu'à faire, dans le monde matériel, qu'à des relations. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un objet qui soit cause d'un autre, ou ainsi de suite. Alors, ceci nous amène à nous poser la question en analyse de qu'est-ce qui ferait cause en analyse. Dire qu'il n'y a que des relations, ça revient à ramener la psychanalyse, et il existe des psychanalystes qui fonctionnent comme ça, à une relation duelle. C'est-à-dire, il y a une sorte d'interrelation entre l'analyste et le patient, et l'idée d'un tiers, elle est dissipée dans cette affaire. Dans ce monde d'immanence, il n'y a que des relations, il n'y a pas de tiers. ça donne une forme de psychanalyse connue bien. Lacan n'a pas, et Freud même, n'a pas fondé ça sur les relations en tant que telles. Alors, est-ce qu'il y a des machines qui rendent compte d'elles-mêmes? Est-ce qu'il y a des êtres, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rendre compte d'elles-mêmes? Et c'est là où je vais venir entre la différence entre le réel en psychanalyse et le réel dans les sciences informatiques ou autres. Vous savez, il y a eu un mathématicien que les mathématiques d'aujourd'hui n'accordent pas beaucoup de, auxquelles n'accordent pas beaucoup d'importance. C'est un mathématicien qui s'appelle Gödel. Et il nous a appris depuis que les systèmes formels que nous pouvons inventer, les systèmes formels que nous pouvons découvrir à chaque fois, sont troués. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas rendre compte de leur propre contradiction. Ils ne peuvent pas rendre compte de leur cause. N'est-ce pas? Ils sont troués, c'est-à-dire ils sont limités. Pour le dire dans un langage imagé, les systèmes formels qu'on peut développer, c'est-à-dire les chaînes signifiants, puisque vous voulez parler de Lacan, eh bien ces chaînes sont trouées. Ils ne peuvent pas rendre compte d'elles-mêmes. N'est-ce pas? De telle sorte que ça abolit l'idée de construire une machine qui soit susceptible de rendre compte d'elle-même ou de se comprendre. Et là, n'est-ce pas, on aboutit à une autre idée de la cause. Mais je ne vais pas développer cette question pour vous laisser la possibilité de...
Vous êtes prêt à écouter les... parce que j'ai relevé moi 5 points différents.
C'est une seule question.
Je vais aller très vite sur certains. Où est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce qu'il veut en venir?
Ça marche toujours.
J'ai eu la réponse il y a une quinzaine de jours. J'ai une cousine, toujours, dont ma sœur et moi avons toujours été étonnés d'à quel point elle n'était pas une cousine, mais pratiquement une sœur. Et au moment où, en rassemblant toute l'information dont nous avons déterminé qu'elle était probablement notre sœur, je me suis dit, voilà où je voulais en revenir. Toute cette question de trouver comment ça marche, la réponse était là. Mais il y a davantage. Il y a cette dimension que Hegel appelle la ruse de la raison. C'est le fait que l'humanité, c'est toujours avec un peu de temps de retard qu'elle comprend ce qu'elle est en train de faire. Et que c'est en regardant...
Excusez-moi.
Je vous en prie. C'est en jetant un regard en arrière qu'on sait qu'à telle époque on faisait telle chose. Le plus bel exemple, bien entendu, c'est chez Koestler, dans le livre qu'il appelle Les Somnambules sur les débuts de l'astronomie, où Tycho Brahe est astrologue impérial et essaye d'améliorer les méthodes de l'astrologie et tous les autres ombres, etc. Et on va inventer la science moderne, tous les outils de la science moderne, on va l'inventer en croyant qu'on est en train d'améliorer le rendement de l'astrologie. Nous sommes à tout moment dans cela. Je crois qu'à toute époque, la ruse de la raison était en train d'opérer, et qu'en particulier dans la période actuelle où le genre humain lui-même et la vie autour de nous est en danger, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, justement du côté de représentations faussées, comme celle du transhumanisme, et des choses de cet ordre-là, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une tentative pour essayer de nous sauver. Et là, je réfléchis à une dimension particulière, c'est que les machines, effectivement, l'intelligence artificielle que nous sommes en train de mettre en place, dispose de capacités de raisonnement en termes non seulement de puissance, mais de complexité du calcul qui ne sont pas les nôtres. J'ai évoqué René Thom tout à l'heure à propos de la théorie des catastrophes. J'ai repris récemment le fameux débat sur le déterminisme qui avait agité la France dans les années 80 dans le cadre de la revue qui s'appelle Le Débat, et où on avait d'un côté essentiellement René Thom, convaincu d'un déterminisme absolu dans notre monde, et en face camarade de promotion Isabelle Sengers avec, avec Prigogine, le chimiste prix Nobel, René Thom, médaille Fields, en mathématiques. Ce que Thom disait, qui n'a jamais été pris au sérieux et que j'ai repris, c'est l'idée qu'il y a un déterminisme absolu. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse décrire notre monde en termes de déterminisme absolu? Il suffit simplement de se rendre compte que ce qui nous apparaît comme étant un monde justement de causes et d'effets, c'est une projection, c'est-à-dire que nous vivons, nous, êtres humains, dans un monde à quatre dimensions, et que le monde physique a probablement davantage de dimensions, et que si on ajoute les dimensions supplémentaires, on aura un monde déterministe, mais que nous n'avons pas, nous, la capacité, nous, de savoir dans combien de dimensions nous nous trouvons. Et si nous regardons effectivement, quelle est la notion que nous aurions imaginée pour rendre compte du fait qu'il y a quelque chose qui a plus de dimensions dans notre monde que nous, on peut très bien l'imaginer. À quoi est-ce qu'on attribue une connaissance absolue du présent, du passé, du futur? C'est Dieu dans notre représentation, c'est exactement ça. Ce sont, si on voulait faire la traduction, et je l'ai fait dans un petit texte récemment, si on voulait traduire la physique de Thom dans la pensée qui est la nôtre, on mettrait effectivement... on dirait c'est Dieu qui rend compte de l'ensemble des dimensions qui manquent. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le débat a eu lieu. Il a eu lieu à l'université de Louvain au XVe siècle, quand l'université a dû suspendre ses travaux pendant pratiquement une dizaine d'années parce que l'université se déchirait autour de la querelle des futurs contingents, qui était exactement cette discussion-là. Est-ce qu'il est possible de dire quoi que ce soit sur le futur? Et la discussion, bien entendu, est-ce que Dieu lui-même connaît le futur, ou est-ce qu'il ne connaît que le passé et le présent, etc. Bon, au point que le pape envisage d'envoyer des troupes pontificales pour mettre de l'ordre dans l'université de Louvain. On oublie, c'est tout ça, on nous présente ça comme la querelle sur les sexes des anges, mais en fait, c'est la prémonition de débats qui vont agiter notre physique par la suite. Si l'on réfléchit aussi à ce moment-là, la Chine n'a pas du tout d'interrogation de ce type-là, n'a jamais inventé le bouddhisme, on le sait, c'est une chose importée d'Inde et qui n'a pas touché une grande partie de la population. Mais la Chine aussi a produit de la même manière. Alors, à l'intérieur de ce monde, voilà, de ce monde où Dieu sait ce qui se passe, mais nous ne le savons pas, Saint Paul, bien entendu, dit, eh bien, il existe, il y a le Saint-Esprit, si nous communiquons avec le Saint-Esprit, il va nous donner les informations sur ce qui nous manque, c'est-à-dire la communication avec Dieu. Et quel est le principe qui va nous permettre à nous de vivre dans un monde dont nous ne connaissons pas l'ensemble des dimensions? C'est l'amour, voilà, c'est l'amour qui va nous permettre ça. Et la Chine invente de son côté une notion du même type. Quelle peut être la règle de vie de quelqu'un qui vit dans un monde dont il ne comprend pas l'ensemble des dimensions? C'est le Tao. Il faut suivre le flux. Il faut suivre le flux. La fameuse histoire de Confucius, évidemment, n'est pas du tout taoïste. Il promène le long de la rivière avec avec quelques-uns de ses suivants et voit un homme qui tombe de la cascade, l'immense cascade. Il dit à ses suivants, Confucius, allez retrouver le corps de cet homme. Et on retrouve l'homme un peu plus tard qui est en train simplement de siffloter sur le chemin. Il est sorti de l'eau, en train de siffloter. Et il dit, explique à Confucius, je fais ça tous les jours. Simplement, pourquoi croyez-vous que moi je sois noyé et qu'en réalité je ne le sois pas? Parce que quand je tombe dans le tourbillon, je me laisse aller dans le tourbillon jusqu'au moment où il me rejette, et là je fais ça tous les matins. C'est-à-dire qu'en fait, cette notion de cause et effet, c'est peut-être une simplification, nous ne pouvons pas faire autrement, et bien entendu nous ne pouvons pas imaginer de mener notre vie autrement que cela, mais nos sociétés, nos cultures ont produit au niveau théorique un ensemble de concepts qui ne sont pas nécessairement fonctionnels, qui ne sont pas nécessairement utilisables. Il y a sans doute, à ma connaissance, il n'y a pas cette créature qui elle serait tout quelque part, mais il y a la possibilité pour nous maintenant d'utiliser les machines pour éventuellement de leur donner l'information qui leur permettrait de découvrir quel est le véritable monde de dimensions, nombre de dimensions, et qui pourrait nous le dire. Alors le paradoxe à ce moment-là, c'est qu'au moment où la machine dirait je sais exactement comment ça marche et c'est déterminé, c'est tout va se passer d'une certaine manière, nous n'aurions pas envie d'entendre le message.
Vous avez écrit un livre où vous dites l'avenir.
Oui.
Vous dites l'avenir. Le dernier qui s'en va être à la lumière.
Ah, ça, oui. Oui.
Vous dites l'avenir.
Mais il y avait cette notion, et justement, c'était dans une revue, en fait, aussi, c'était une revue lacanienne que j'avais écrit ça. Ce que j'avais appelé à l'article, c'est un vieux truc, aussi, fin des années 80, les nervures du chaos. C'est l'époque où on s'intéressait à les dynamiques de chaos, et dans les dynamiques de chaos, on voit effectivement apparaître à la fois des chemins, à certains moments, des chemins de déterministes. C'est ce que Waddington avait appelé des créodes, c'est-à-dire comme des chenoux qui apparaissent. Et à d'autres moments où il y a des plages, simplement, on le voit, des plages c'est du déterminisme, mais il y a tellement de, il y a une telle multitude de chemins qui apparaissent, tellement de bifurcations que, et là, Tom dirait, c'est parce que c'est une projection, c'est parce que ça nous, parce que dans le monde où nous essayons de regarder ça, c'est pas le monde adéquat. Il faudrait ajouter une dimension supplémentaire qui nous montrerait au lieu l'image que j'ai utilisée l'autre jour, c'est un poisson dans un aquarium, mais il y a simplement une lampe au-dessus. Et on peut simplement voir le poisson qui se déplace sur le fond, comme une ombre. Quand le poisson monte dans l'aquarium, on voit rien, on ne peut pas comprendre, parce qu'il manque justement la profondeur qui nous permettrait de faire la différence. Je crois qu'il y a, et c'est ça qu'on me dit, est-ce qu'il va y avoir une crise boursière? Je dis, j'en sais absolument rien. Mais au moment où je prédis, 3 ans à l'avance, la crise est subprime, bon, j'ai accès à l'information puisque je travaille dans un domaine qui est très proche, mais c'est parce que là, il y avait ce que Waddington appelle une créole, il y avait ce que nous pouvons voir, une vallée de type causal qui allait d'un événement minime, ça présente rien dans l'économie américaine, bien entendu, les subprimes, des prêts donnés aux plus pauvres pour acheter des petites maisons, ça représente rien dans l'économie américaine. Mais il y avait une voie tracée, c'est celle que j'avais décrite dans cet ouvrage, entre cet événement-là et une catastrophe d'ordre généralisé à l'intérieur de l'économie. Mais ce genre de choses-là n'apparaissent qu'à certains endroits et à certains moments.
Je voudrais vous demander si j'ai bien entendu quand vous avez dit l'inconscient est un organe.
Non, j'ai dit que dans la psychanalyse. Non, si j'ai dit ça, non, c'est sûrement pas ça que je voulais dire. Non, j'ai dit que la conscience, dans la représentation de la psychologie de type classique, est un organe. Et c'est l'organe qui agite la volonté, c'est le siège sur lequel est assis le truc, et qui va décider, va produire des intentions, et la volonté va permettre la mise en acte de l'intention. Mais pour moi, non, ça c'est de la psychologie populaire. Et ce n'était pas certainement pas l'inconscient, non.
Merci pour votre propos. Je pense que au départ, il a formidablement illustré ce que j'évoquais aussi un petit peu ce matin comme un symptôme massif, épocal, qui est l'indifférenciation entre organisme et artefact. Là où finalement le vivant va s'appuyer sur la faille justement pour pouvoir exister, l'artefact, lui, face à la défaillance, est dans l'impossibilité de fonctionner. Et bien sûr, cette différence qui est essentielle, primordiale et pourtant complètement recouverte, écrasée à notre époque, y compris par toute cette fantasmatique transhumaniste et autres. D'ailleurs, les théories de l'information illustrent bien aussi ce réductionnisme. Cette absence de sens, finalement, hein, l'absence de considération par rapport au sens qui est nécessaire au vivant. Vous avez évoqué le taoïsme. Il me semble qu'il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on tape avec un bâton au fond d'une barque, les poissons vont vers le fond et les oiseaux s'envolent. Alors là, pour le coup, on est justement sur le caractère asémantique du signal, hein, ce qui fait aussi la différence entre le vivant qui a besoin d'assigner du sens et l'artefact qui, lui, n'est pas du tout sur le même mode. Autre point peut-être, puisque vous parliez, vous évoquiez la question de la proprioception, Il y a un exemple, justement, parmi toutes les mutations qui peuvent nous concerner, sont les gilets connectés. C'est une expérience qui a été faite, il me semble, et avec les gilets connectés, la personne est sans cesse, reçoit de l'information, mais de l'information qui ne fait plus compréhension, qui ne fait plus connaissance. Donc elle reçoit sans cesse des informations sur son rythme cardiaque, le nombre de gouttes d'urine qui tombent dans sa vessie, etc. Et on a constaté justement, par le port de ces gilets, un dysfonctionnement total dans le système d'autorégulation, justement. Là, on est aussi sur quelque chose qui peut illustrer cette différence, cette nuance. Et dernier point, puisque vous avez évoqué AlphaGo, de la même façon que monsieur avait bien mis en lumière le fait que les robots peuvent dire mais ne parlent pas, AlphaGo peut-être peut remporter la partie, mais il n'a jamais joué.
Oui. Vous aviez déjà soulevé la question de la machine qui rencontre d'elle-même. Et effectivement, ces propriocepteurs permettraient à la machine, en disant, voilà, je suis en tel état et je suis en train de faire ceci. Mais comme vous montrez, quand l'être humain commence à comprendre ça, quand la conscience a envahi le domaine de l'inconscient, il y a court-circuit. C'est la fameuse expérience. Si on descend une volée d'escalier à toute allure, et si on se met à réfléchir à ce qu'on fait, bien entendu, il y aura interférence. Et on va tomber dans l'escalier. La question fond, un aspect auquel vous me faites penser, c'est que nous parlons des machines qui nous font représenter le monde autrement que nous ne sommes, mais il y a l'influence, et bon, ça c'est une de mes grandes croisades, l'influence de la science, de la prétendue science économique, qui nous représente comme étant fonctionnant d'une manière absolument différente de la nôtre. Une notion bien entendu essentielle, j'ai fait allusion à la fin, entre ce que le robot peut faire ou pourra faire et nous, c'est cette notion d'adhésion à ce que nous faisons, la reconnaissance que nous disons, juge, oui, c'est bien moi qui ai fait ça, la answerability. Alors, quand on pense à cette notion de responsabilité à ce niveau-là, c'est lié à la parole donnée, au serment qui peut être fait, en disant, voilà, je m'engage vis-à-vis de l'avenir. Et vous le savez sans doute, et les personnes qui ont mis ça en place ont obtenu des prix Nobel d'économie. Il ne faut plus jamais faire ça. Il faut faire le calcul de dommages-intérêts et de voir quelle est l'opération la plus payante, d'adhérer à la parole donnée ou de payer une certaine somme. Le calcul doit être fait de cette manière-là. C'est ça la réponse. C'est la révolution des années 60-70 en économie. L'invasion aussi de la théorie des jeux comme étant les principes selon lesquels nous fonctionnons, c'est-à-dire la mise totalement entre parenthèses justement de la dimension symbolique et le fait que nous sommes des êtres qui adhérons ou non à ce que nous faisons. Et c'était ça qui est amusant dans la remarque de Musil, en disant dans l'Autriche-Hongrie des années 1910, il n'y a plus personne qui dit c'est moi qui ai fait ceci, tout est de l'ordre de la citation. Il n'y a plus de j'ai pris une mauvaise décision, mais c'est un remplacement généralisé de j'ai pris une mauvaise décision par c'est la faute à pas de chance. Et là aussi, la science économique nous a conduit à faire cela. J'ai travaillé un moment dans la pêche en mer avec des vrais pêcheurs. Et là, la décision, quand on parlait de quelqu'un qui prenait des mauvaises décisions, et ça devait être la même chose dans toutes les sociétés traditionnelles, ou bien on assignait à la personne le fait d'avoir pris une mauvaise décision, ou on se tournait vers la chance. Et j'ai vu des gens qui, manifestement, tout le monde savait que c'était des mauvaises décisions, et où on disait, par sympathie pour sa femme, par sympathie pour ses enfants, etc., c'est la faute à pas de chance. Nous avons toujours la possibilité, nous, je dirais, de faire ce choix. je vois mal la machine de dire, de réfléchir, de dire est-ce que je vais dire la faute a pas de chance ou bien que cette personne a fait une erreur. On pourrait le mettre avec une dynamique d'affect à l'intérieur, etc. On pourrait mettre à la machine aussi la possibilité d'avoir deux représentations distinctes de ce qui est en train de se passer, une dans laquelle on ment et l'autre dans laquelle on dit la vérité. Et là aussi, il y a des gens qui sont plus ou moins bons, il y a des gens dont on dit ils ne savent pas mentir, parce que la contradiction entre les deux systèmes apparaît sur la surface de leur visage, dans les gestes qu'ils posent. Il y a des gens qui sont des génies dans la possibilité de mentir en prétendant dire la vérité. Voilà l'exemple avec M. Trump en ce moment même aux États-Unis. Dans la machine, il faudrait faire des systèmes séparés, l'un qui ment et l'autre qui est en train de monitorer, de savoir que l'autre, celui qui parle, est en train de mentir. Or, nous avons cette capacité, nous, et on le voit en psychanalyse, d'avoir des différentes couches, des modèles intégrés à l'intérieur de modèles, etc. Là, je pensais aussi à une expérience de ma psychanalyse avec Philippe Julien. En général, dans la science, il y avait une interprétation. En général, c'était un seul mot, mais il y avait l'interprétation, ou simplement la répétition d'un mot, un bout de phrase, et oui, voilà, oui, etc. Et puis bon, il y a une séance où je descends de chez lui, rue des Carmes à Paris, et il n'y a pas eu d'interprétation. Et je descends les escaliers, et au moment où je suis tout en bas, j'entends l'interprétation. Le mot qui n'a pas été dit par Julien est dit. Et je sais que c'est pas lui, c'est pas lui qui a ouvert la porte, c'est une hallucination verbale. Mais c'est-à-dire que dans le processus, donc, il y avait non seulement moi, il y avait lui qui interprétait, et il y avait à l'intérieur de moi-même, moi qui reconstituais d'une certaine manière son interprétation, puisque j'ai pu la faire au moment où je sors, je descends les escaliers. J'ai raconté ça dans un séminaire de psychanalyse, c'était à Boston, et il y avait là une fameuse psychanalyste française, j'ai oublié son nom, et bon, ça doit être significatif, j'ai oublié son nom, qui a dit c'était impossible, c'est pas possible, etc. Mais l'Assemblée a écouté mon histoire et s'est dit que c'était de l'ordre de l'impossibilité. En tout cas, oui,
qu'est-ce qui serait impossible, disait cette femme.
Que j'ai halluciné l'interprétation.
Pourquoi vous n'avez pas le droit d'halluciner?
Bien entendu. Mais voilà. Oui, c'était cette joue, j'oublie son nom, il va peut-être me revenir. C'était une autorité. C'était une autorité. Il était invité, là, à Boston, etc. Les gens font. Attacher de l'importance au fait qu'elles disent que ce soit impossible.
Vous parliez tout à l'heure des mensonges. J'ai lu récemment, pour l'occasion de. Ils ont créé un robot qui, dit-on, joue au poker.
Oui, oui, bien sûr.
Donc il bluffe.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que au jeu du poker, il est question de mensonge? Le bluff n'est pas un mensonge.
Non,
Si on dit qu'il joue au poker, il y a une dimension ludique qui reste quand même quelque chose du côté de la machine. C'est quand même un petit peu particulier, une dimension ludique du côté de la machine. Parce que ça affine effectivement au mensonge, mais aussi au faire semblant.
Oui, oui.
Et ça me paraît quand même un petit peu étonnant, enfin, de mon point de vue, qu'on puisse comme ça uniquement. Par les combinatoires de la cybernétique, arriver à faire du semblant, qui soit du bluff, qui ne soit pas du mensonge, et qui soit décontenant. Parce que c'est leur fait dans le poker, cette machine-là, quand elle fait ça, elle fait ça par rapport à un autre, oui. Un autre humain, j'entends. Oui. Et donc, c'est cet autre humain qui interprète, finalement, par l'interprétation. Qui interprète la chose de la machine. Oui, on ne peut pas lui parler, elle n'a pas de dimension d'interprétation, au sens, ne serait-ce qu'au sens ludique du terme, pour jouer.
Oui, mais enfin, là on peut formaliser assez facilement ce qui se passe dans le bluff et comment la machine y arrive. Dans les échecs, dans le go, toute l'information est sur l'échiquier. Il n'y a pas d'autres informations que ce qu'on peut voir. Dans le poker, une partie de l'information manque. Et à ce moment-là, ce que la machine va faire, c'est un choix de produire de l'information vraie ou fausse sur la partie manquante.
Donc, oui. Voilà. Il n'y a pas de bluff, une machine ne bluffe pas.
Non, la machine.
Mais elle étudie la situation.
C'est statistique.
Et elle va ajouter un élément vrai ou un élément faux à l'interprétation de la situation.
On finirait par trouver une machine qui bluffe.
Mais ça me rappelle qu'il y a une partie de la question que je n'ai pas répondu, c'est Gödel. C'est Gödel. Dans mon livre, il s'appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées », où je parle en particulier là, de Lévi-Brull, comme j'ai mentionné tout à l'heure, sur les appartenances, mais aussi sur les notions qu'il n'y a pas en Chine, comme la notion de vérité, de réalité, etc. Je me suis fort intéressé à cette démonstration de Gödel. Et il y a un très bon article qui est en préparation d'un collègue, Fernand Dorido, à la Cato, que je suis en train de lire, sur qu'est-ce qu'on peut tirer de la démonstration de Gödel ou non. Et là, je suis d'accord avec Dorido qu'on ne peut pas en tirer la conclusion qui est tirée d'habitude, que nous ne sommes pas formalisables et qu'il y a des décisions que la machine
que ne prend pas. Que l'homme n'est pas formalisable, c'est ça?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, j'ai mentionné Georges-Théodule Guilbault, qui était mon professeur, c'est la personne qui a introduit donc Lacan et Lévi-Strauss aux mathématiques. Guilbault fait partie des gens qui se sont attaqués violemment à la démonstration du deuxième théorème de Gödel. J'ai aussi été l'élève à Bruxelles de Kaïm Perelman, qui était aussi un des acteurs à propos de la discussion du théorème de Gödel, et qui lui aussi, pour des raisons légèrement différentes de celles de Guilbault, mettait en cause la démonstration de Gödel. Pour qu'on puisse imaginer qu'on tire les conséquences que Gödel tirait de son théorème, il faut imaginer ce qu'on appelle un platonisme ou un pythagorisme, c'est-à-dire une véritable que les nombres sont véritablement des éléments du réel. Et là, je crois qu'on est du côté de l'acte de foi. Dans ce livre, je consacre 50 pages à la démonstration du théorème de Gödel, et je montre que sans un platonisme sous-jacent qui permet, dans la démonstration de Gödel, de dire qu'une séquence symbolique faite de lettres et de nombres puisse dire quelque chose d'elle-même, il y a quelque chose d'irrecevable. C'est un élément clé dans la démonstration de Gödel. Je ne crois pas qu'une psychanalyste ou un psychanalyste puisse soutenir avec Gödel qu'une phrase, qu'une proposition faite de symboles puisse dire quelque chose à propos de sa vérité, de sa propre vérité ou de sa fausseté. Donc je crois que dans l'engagement de l'art ou du psychanalyste, il y a quelque chose qui remet fondamentalement la démonstration elle-même de Gödel. Pour le reste, et là Dorido le couvre, l'ensemble du problème, je crois qu'il a raison de dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas imaginer de situation effectivement où la machine ne pourrait pas émuler, comme on dit, faire exactement la même chose que nous faisons dans une situation d'incertitude, de faire des paris pascaliens, etc., en disant il vaut mieux imaginer ça, ou alors comme la machine qui bluffe, c'est-à-dire est-ce que je vais donner un élément d'information vraie ou je vais la déguiser, etc. Moi, personnellement, je ne vois pas de cas qu'on puisse imaginer, et certainement pas qu'on puisse faire dériver ça de la démonstration de Gödel. Je sais que la démonstration de Gödel a été refaite par d'autres, par Kleene et d'autres mathématiciens selon d'autres moyens, donc c'est vrai pour l'arithmétique, etc. Mais je ne crois pas que ce soit extrapolable au fonctionnement d'une machine dont le but serait de nous simuler ou de reproduire un comportement semblable au nôtre, selon les mêmes principes selon lesquels nous fonctionnons.
Ça ne peut pas être extrapolé à une machine, puisqu'il s'agit d'un système formel. On dit qu'une machine n'est pas un système formel.
Oui, j'aurais peut-être une question.
Oui.
Par rapport au début de votre exposé, la neurophysiologie. Vous dites qu'il y a un décalage entre le moment où se produit un acte et le moment où on a conscience de cet acte.
Oui.
Pareil, je sais aussi que quand on enregistre des hallucinations sur le plan neurophysiologique, il y a automatiquement une activation des zones du langage. C'est ce que montre la neurophysiologie. Alors, quand vous parlez là de vous mettez en cause la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut un certain décalage quand même pour que cette mise en cause de la responsabilité, donc il faut un certain temps pour qu'elle se mette en œuvre. Mais qu'est-ce qu'il en est alors du lapsus et de l'acte manqué?
Oui.
Quand quelqu'un, avant même peut-être qu'on se rende compte qu'on est en train de marcher dans les escaliers, on peut se casser la figure.
Oui. Oui, mais justement, dans le livre que j'ai écrit à l'époque, qui a été publié en 1989, qui s'appelle « Principes des systèmes intelligents », c'est le livre où je décrivais ce que faisait Anella et comment on pouvait réfléchir, et à ce projet donc, d'utiliser la métapsychologie freudienne comme étant le domaine du robot. Là, j'ai fait une étude systématique pas de l'acte manqué en tant que tel, mais du lapsus. À partir de ce que... Et en fait, c'était très intéressant parce que l'indication de où il fallait chercher l'information, et il rejoint un peu des choses que j'ai dites entièrement, je l'ai eue dans une conférence faite par Roman Jakobson à la Sorbonne. Et quelqu'un lui posait dans l'assemblée une question de cet ordre-là, et il a dit, eh bien, il faudra des années, dit-il, avant que nous atteignions à nouveau dans la linguistique le degré de sophistication qui était celui des scolastiques au XIIIe et XIVe siècle. Donc, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je suis allé voir chez ces scolastiques, ils avaient dit, j'ai cru Jakobson, et il avait raison, tout ça a été très, très, très bien traité. Tout ce qui est nécessaire pour expliquer le lapsus se trouve dans les discussions qui ont lieu à ce moment-là, toutes les notions nécessaires, toutes les analyses. Je me suis retrouvé un jour absolument coincé parce que de fil en aiguille, je me dis cet ouvrage-là qui, voilà, et cet ouvrage me montre qu'il faut aller remonter un autre, et je suis à l'université de Cambridge, et voilà, j'ai l'ouvrage, c'est un ouvrage de Grégoire de Rimini qui va me donner l'explication de ce que je suis en train de chercher. Et on me la porte, et il n'a jamais été traduit du latin. Et je me dis, bon, ben c'est le moment d'utiliser pour la première fois le latin que j'ai appris à l'école. Et effectivement, tout ça se trouve là, et j'ai essayé de le reprendre dans cet ouvrage, « Principes des systèmes intelligents ». Donc tout ce qui est de l'ordre du lapsus, des contaminations, il y a effectivement des travaux de Jung, avant qu'il rencontre Freud, qui sont des travaux de psychologie de ce type-là, et quand il s'intéresse justement à tous les accidents qui peuvent avoir lieu dans le langage. Donc j'ai pu utiliser aussi l'information qui se trouvait chez Jung. Mais c'est les scolastiques essentiellement. Et là, je crois avoir fait un catalogue complet de ce qu'on peut, des erreurs possibles de ce type-là. Des contaminations que les scolastiques appelaient par exemple des contaminations matérielles. Matériel, c'est de dire humidité au lieu d'humilité. Des choses qui sont vraiment de l'ordre, je dirais, pratiquement d'un mot pareil. Mais pour tout ce qui est du reste, pour tout ce qui est de la sémantique, comment une erreur peut avoir lieu. Et là, évidemment, c'est la dimension de l'affect. L'exemple que j'ai dit tout à l'heure, quand une patiente, au lieu de dire piano musique, dit père meurtrier, là, il y a une information, bien entendu, il y a quelque chose qui a été inscrit en mémoire et qu'on appelle à ce moment-là, voilà, une information d'ordre autobiographique, bien entendu, qui explique ce qui a pu se passer. Mais là, bon, donc je crois, cet ouvrage a été publié chez Masson, qui était donc qui est publié que des livres de type vraiment très technique. Il était épuisé, mais il est de nouveau disponible. Je me suis arrangé pour qu'il soit disponible. Donc ce livre est disponible. Et je crois avoir fait un très bon catalogue de tout ce qui est de l'ordre du lapsus, de la contamination entre des mots. Hein.
Est-ce que donc.
Pardon.
Est-ce qu'un robot peut faire un lapsus?
Il suffit de l'inscrire. Oui. Il suffit d'un. Mais ça, c'est de l'ordre du ratage. Et c'est ça, bon, quand Lacan dit ce qui nous rend attendrissants aux yeux les uns des autres, c'est essentiellement les effets de ratage. Oui, ça on peut le faire si on veut.
Donc, un lapsus pour vous, c'est une erreur.
C'est ça.
Non, c'est une erreur. Comme le mot d'enfant est une erreur pour l'institutrice, mais pas pour les parents. Vous voyez ce que je veux dire? La différence. Non, vous ne voyez pas la différence?
Non, parce que le fait de dire que c'est une erreur, c'est un peu votre tendance à admettre les choses. Une erreur peut être modélisée. Et je vois mal comment un lapsus peut l'être. Parce qu'un lapsus se fait en fonction d'un tiers. Et elle change le lapsus en fonction de n'importe quel autre lien, au cas par cas. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à mettre la main dessus.
C'est quelque chose qui échappe.
C'est parce qu'il y a une histoire. C'est parce qu'il y a une histoire. Mais oui, mais quand on parle, qui a parlé d'AlphaGo tout à l'heure? Hein, AlphaGo, c'est vous? Voilà. Quand on fait maintenant des intelligences artificielles, et qu'elles jouent avec elles-mêmes, et qu'elles, ou qu'elles partent à partir d'exemples, elles ont des histoires particulières. Et quand on oppose un robot à un être humain, au début, quand il s'agissait d'AlphaGo, effectivement, on mettait en face de l'humain le meilleur AlphaGo dont on disposait, parce qu'ils avaient appris dans un certain ordre. Et c'est ça, évidemment, tout le message de la métapsychologie. Dans l'ordre où on apprend les choses, même des jumeaux n'ont pas la même histoire, même des vrais jumeaux, parce qu'il y a tout de suite, je dirais, le fait qu'une information va venir avant une autre, ou inversement, et que la valeur d'affect vont être produite d'une autre manière. L'exemple qu'on vous donne dans les bouquins de à l'époque, c'était sur les bases de données. Un médecin qui devient juriste ou un juriste qui devient médecin ne prendront pas les mêmes décisions. Vous voyez ce que je veux dire ?
Est-ce que décision non, mais vous voulez dire il ne ferait pas les mêmes lapsus ?
Il ne ferait pas les mêmes lapsus, non. Mais ils n'ont pas la même histoire.
C'est pas la même histoire. Ce sont des médecins ou des juristes. Je ne vais pas commencer à faire des lapsus parce que je suis libanais.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, peut-être.
Vous allez faire des...
Mais vous êtes en train de me dire que le lapsus est fonction d'une histoire.
Oui. Ça, je vous dis ça, oui.
Et qu'est-ce que j'ai de plus en disant ça ?
Ah ben, je ne dis pas que vous avez que c'est de l'information en plus.
C'est ce genre d'hypothèse, comme disait Lattès, hypothèse fainéante. C'est-à-dire qu'il ne donne rien. Le fait de dire que j'ai fait un lapsus parce que je suis historien, comment un analyste va traiter ça ?
Oui, mais c'est comme de lui dire qu'on a fait des photos maintenant des lacs de méthane liquide à Titan, vous direz, oui, mais ça ne changera rien à notre vie quotidienne. C'est une information.
Mais comment je vais la faire fonctionner, cette information ?
Ah, mais ça, c'est parce que la psychanalyse n'est pas une pratique comme celle du chimiste ou du physique.
Oui, mais c'est
parce
ça.
Que c'est une pratique de l'empirique.
C'est ça notre problème. C'est que comment distinguer la pratique, le réel en psychanalyse, du réel qui est impliqué dans les sciences.
J'ai eu
écho d'une conférence d'un professeur au CHR intitulée « L'amour, les sentiments, c'est une affaire de cerveau ». On est étonné, n'est-ce pas, de constater tellement d'intelligence concernant cette affirmation. Est-ce qu'on veut dire que sans cerveau, il n'y aurait ni amour, ni sentiment ? Je suis d'accord. Avant, on disait, c'est une affaire de cœur. Mmh. On a changé d'organe, bien sûr, mais on veut dire que le cerveau, évidemment, c'est une condition matérielle de l'amour et des sentiments. Oui. C'est une condition, n'est-ce pas ? Mais la condition suffisante, elle n'y est pas.
Non, mais ce que vous dites, c'est que Aristote a dit, c'est dans la métaphysique, la science ne parle que de l'universel. Bon, la science produit des propos de type généraux. Le praticien, dans la vie quotidienne, il ne pratique que sur des cas particuliers. Il n'y a pas autre chose qu'un cas particulier. Et ça, c'est parce que ce qu'on appelait traditionnellement l'empirique. Je vais vous donner un exemple.
Nécessairement l'empirique. Je peux m'intéresser au contingent.
Oui.
C'est-à-dire pas à l'universel,
oui.
Hein, d'une manière. Lacan a avancé dans cette affaire une logique qu'on appelle la logique du tout et du pas tout, où il peut caser et situer un peu ce qui est de l'ordre du contingent. Si moi je dois tenir devant vous un discours strictement universel, vous allez vous endormir tout de suite. Et un psychanalyste, en principe, s'il doit interpréter ou s'il doit faire un discours d'enseignement ailleurs, il doit commencer par accorder beaucoup d'importance aux problèmes contingents. N'est-ce pas ? En essayant de les intégrer. Mais s'il fait seulement un discours de l'ordre de plus 2 égale 4, on va envoyer tout le monde.
Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire si c'est un rapport ou non avec ce que vous venez de dire. J'ai écrit en 84 avec mon épouse à l'époque, Geneviève Delbos, un ouvrage qui s'appelait La transmission.
Voilà un phénomène contingent.
La transmission des savoirs, voilà. Et on s'est intéressé à un incident particulier qu'on a vu sur les marais salants où on produit du sel par évaporation, etc. Les scientifiques, de l'Ifremer sont venus sur le terrain, ils allaient apporter la réponse au problème de tous les paludiers, on a apporté le PESCEL. Le PESCEL, en fait, c'est une machine qui mesure le degré d'acidité qui est lié à la quantité de sel qui se trouve dans l'eau. Et les paludiers allaient utiliser le PESCEL, ils sauraient si le sel est prêt à cristalliser ou pas. Et les paludiers ont rejeté le PESCEL en disant « ça sert à rien ». Bon, alors, d'un côté, on avait le discours de l'universel. Le problème, c'est que le sel précipite, et donc, avec le PESCEL, on allait vous dire si ça allait précipiter rapidement. Et de l'autre côté, il y a des gens, les paludiers, que les scientifiques ont présentés comme des ignares qui ne comprenaient pas que la solution était là. Et les paludiers ont expliqué la chose suivante. Les marais salants. Les marais salants, il n'y en a pas deux qui sont exactement le même. Il n'y en a pas deux où on pourrait dire ça va précipiter tel jour parce qu'il y a telle densité de sel en ce moment. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des algues en suspension, parce qu'il y a des salicornes sur le bord, parce que le vent là fait un tourbillon et il n'en fait pas dans l'autre. Il y a une histoire qu'on raconte entre les paludiers et qui est vraie. La plupart des paludiers après le métier, traditionnellement c'était d'un père à son fils, et le fils apprenait sur les marais qu'il allait traiter. Et puis, catastrophe dans les années 30, il y a quelqu'un, ça n'a pas pu se faire, il a dû aller travailler chez son beau-père. Et avec son beau-père, il ne comprenait rien au marais qu'il avait devant de lui, parce que c'était, chacun de ses œillets avait son histoire à lui, et le sel n'allait pas. J'ai un fils qui est devenu paludier, j'ai encore des histoires qui viennent comme ça maintenant. C'est vrai, celui-là, on sait qu'il va cristalliser avant les autres, et on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a des algues en suspension depuis des milliers d'années, etc. C'est peut-être l'argile qui est légèrement différente, etc. C'est la même chose en psychanalyse. Chaque analysant est comme chacun de ses marais salants. Si on vous propose un PESCEL pour faire pour de la psychanalyse, ça ne marchera pas, on est tous d'accord.
Triste comparaison, quoi.